le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne rentrée, et pour nous aussi c'est la rentrée, et lors de ces vacances et depuis octobre 2023, Amnesty International mène une enquête sur Israël et le territoire palestinien occupé, une enquête pour crimes de guerre. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de cette enquête qui concerne donc des fermes rasées au bulldozer et des immeubles d'habitation démolis dans l'est de Gaza. Des images satellites et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux révèlent l'ampleur de la destruction et des milliers d'habitations et des terres rendues inhabitables. La campagne militaire menée par Israël pour étendre largement une zone tampon le long du périmètre est de la bande de Gaza occupée doit donner lieu à une enquête, selon Amnesty International, pour les crimes de guerre, de destruction injustifiée et de sanctions collectives, selon Amnesty International, dans l'enquête qui a été publiée à la fin de cet été. Au moyen donc de bulldozers et d'explosifs installés manuellement, l'armée israélienne a détruit illégalement des terres agricoles et des bâtiments civils et a rasé des quartiers entiers, y compris des habitations, des écoles et des mosquées. Grâce à l'analyse d'images satellites et de vidéos publiées par des militaires israéliens sur les réseaux sociaux entre octobre 2023 et mai 2024, le laboratoire de preuves du programme Réaction aux crises d'Amnesty International a identifié des terres récemment défrichées le long de la limite est de Gaza sur une surface d'environ 1 à 1,8 km de large. Certaines vidéos montrent des militaires israéliens posant pour des photos ou portant un toast de célébration alors que des bâtiments sont démolis en arrière-plan. Selon Erika Guevara-Rosas, qui est la directrice générale de la recherche du plaidoyer des politiques et des campagnes à Amnesty International, je cite « La campagne de ruines incessantes de l'armée israélienne à Gaza est une campagne de destruction injustifiée. Nos recherches montrent que les forces israéliennes ont détruit des bâtiments résidentiels, forcé des milliers de familles à quitter leur foyer et rendu leurs terres inhabitables. Notre analyse révèle une pratique généralisée le long du périmètre est de Gaza correspondant à la destruction systématique d'une zone entière. » Ces habitations n'ont pas été détruites à la suite de combats intenses. L'armée israélienne a rasé délibérément ces terres après en avoir pris le contrôle. La création d'une zone tampon ne doit en aucun cas constituer une sanction collective pour la population civile palestinienne qui vivait dans ces zones. Les mesures prises par Israël pour protéger sa population des attaques venant de Gaza doivent respecter ses obligations au regard du droit international, y compris celles concernant l'interdiction de la destruction injustifiée et de la sanction collective. Des responsables israéliens ont reconnu quand même la destruction de structures le long du périmètre est de Gaza en réponse aux attaques du 7 octobre 2023 menées par le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens et l'ont qualifié de « mesures de sécurité destinées à protéger la population israélienne de nouvelles attaques ». L'armée israélienne a justifié les démolitions dans toute la bande de Gaza en affirmant avoir détruit des tunnels et d'autres infrastructures terroristes. Le 2 juillet 2024, cependant, Amnesty International a adressé des questions aux autorités israéliennes au sujet de ces démolitions. Et au moment de l'apparition de l'enquête dont je vous parle, il n'y avait toujours pas de réponse de la part des autorités israéliennes. Toujours selon Erika Guevara-Rosas, je cite « Nos recherches ont montré que des milliers de familles ont été chassées de chez elles et que leurs terres ont été rendues inhabitables ». Là, on est un petit peu en fait entre une nécessité militaire et le droit international humanitaire. C'est-à-dire que la zone tampon élargie le long de la ligne de démarcation avec Israël couvre environ 58 km², ce qui représente environ 16% de l'ensemble de la bande de Gaza occupée. En mai 2024, il y avait plus de 90% des bâtiments de cette zone, donc ça veut dire à peu près 3500 structures, qui semblaient détruits ou gravement endommagées. Et en plus, il y avait une vingtaine de kilomètres carrés de terres agricoles de la région, donc à peu près 59%, qui présentaient des détériorations de la santé, de la densité des cultures en raison des conflits en cours. Amnesty International s'est donc entretenu avec des habitants et des habitantes et des agriculteurs, agricultrices qui sont touchés. Et on a aussi analysé des images satellites. On a vérifié 25 vidéos filmées le long de la ligne de démarcation. Et on a suivi les déclarations de l'armée israélienne, du Hamas et d'autres groupes armés afin de déterminer si la structure elle est légale et notamment si elle pouvait être justifiée par une nécessité militaire impérieuse. Dans quatre zones sur lesquelles Amnesty International a enquêté, la destruction est intervenue après que l'armée israélienne avait pris le contrôle opérationnel des zones, ce qui signifie que ça n'a pas été causé par des combats directs, ces destructions. Ça n'a pas été causé par des combats entre l'armée israélienne et le Hamas, ou alors d'autres groupes armés palestiniens. Dans ces parties de la bande de Gaza, des structures ont donc été délibérément et systématiquement démolies. Il semble que de nombreuses structures aient été démolies en raison de leur proximité avec la barrière construite par Israël à des fins de séparation de la bande de Gaza. Bien que certaines structures aient probablement déjà été utilisées par des groupes armés, l'éventuelle utilisation future de biens de caractère civil par des groupes armés, que ce soit du fait de leur proximité avec la ligne de démarcation ou pour d'autres raisons, ça ne suffit pas à transformer des logements, des écoles ou des mosquées en objectifs militaires. Et en plus de ça, la démolition punitive à titre de sanction collective de biens de caractère civil au seul motif qu'ils ont été utilisés par des groupes armés, elle est interdite par le droit international humanitaire. D'ailleurs, le droit international humanitaire, il est contraignant pour toutes les parties à un conflit armé. Il interdit la destruction des biens d'un adversaire, sauf si celle-ci est justifiée par une nécessité militaire impérieuse. Les attaques directes contre des biens de caractère civil sont également interdites. Le principe de nécessité militaire permet à une partie au conflit de prendre des mesures qui sont nécessaires en vue d'affaiblir les forces militaires de son adversaire si elles ne sont pas par ailleurs interdites par le droit international humanitaire. Dans le cas de l'interdiction de la destruction des biens d'un adversaire, il existe une exception explicite en cas de nécessité militaire impérieuse permettant la destruction de biens si celle-ci se justifie par un objectif militaire légitime et donc qu'il n'enfreint pas d'autres dispositions du droit international humanitaire, notamment, entre autres, le principe de proportionnalité et l'interdiction de la sanction collective. La destruction d'une structure servant de couverture à un ennemi pour tirer sur les forces de l'autre partie pendant un combat actif peut constituer un objectif légitime, par exemple. Cette application tactique ne s'applique pas dans les cas recensés ici, car au moment des démolitions, les forces israéliennes contrôlaient les zones et les combats avaient en grande partie cessé. Même lorsque la destruction peut servir à un objectif militaire légitime, l'étendue de cette destruction et la méthode employée à cette fin sont limitées par le principe de proportionnalité, ainsi que par d'autres dispositions du droit international humanitaire, y compris celles régissant les occupations militaires. Si l'armée israélienne pensait qu'il était nécessaire du point de vue militaire d'établir une zone tampon afin de protéger sa population en Israël des attaques des groupes armés, il semble qu'il existait d'autres solutions sur les territoires israéliens qui auraient respecté pour le coup le droit international humanitaire ainsi que les obligations d'Israël en tant que puissance occupante pour parvenir à cet objectif. Ces autres solutions, bien que viables, n'ayant pas été envisagées, aucun objectif militaire légitime ne saurait justifier l'ampleur de ces destructions massives et systématiques. Ces destructions injustifiées doivent donc faire l'objet d'une enquête pour crimes de guerre. Compte tenu des éléments démontrant que certaines destructions d'habitations et d'autres biens de caractère civil visaient à punir des civils pour des attaques de groupes armés, ces agissements doivent également faire l'objet d'une enquête pour crimes de guerre de sanctions collectives. En 2003, dans un avis consultatif, la Cour internationale de justice a conclu que la construction par Israël d'un mur sur le territoire de la Cisjordanie occupée était illégale. La Cour internationale de justice a souligné que les mesures de sécurité prises par Israël doivent être conformes aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international humanitaire, y compris en tant que puissance occupante et du droit international relatif aux droits humains. Pour assurer cette conformité, Israël doit notamment envisager des solutions alternatives de construction en territoire israélien qui déplaceraient moins de civils et offriraient des réparations équitables aux civils ayant perdu des biens et des moyens de subsistance. L'utilisation militaire antérieure de structures civiles ne justifie pas à elle seule la démolition de biens de caractère civil et encore moins la destruction massive de quartiers entiers et de terres agricoles nécessaires à l'alimentation de la population civile. Environ 11 000 Palestiniens et Palestiniennes vivaient dans la ville de Kouza. C'est une des villes dans lesquelles on a mené notre enquête, dans le gouvernorat de Khan Younes, dans le sud de Gaza. Dans les 7 semaines après le 7 octobre 2023, des images satellites montrent qu'environ 178 structures dans la ville et autour de celles-ci ont été détruites ou gravement endommagées, dont beaucoup par des frappes aériennes. Cependant, des destructions plus importantes sont survenues lorsque les forces terrestres israéliennes sont entrées dans la ville à plus grande échelle à la fin du mois de décembre 2023. Plus de 850 structures ont été détruites ou gravement endommagées entre le 26 novembre 2023 et le 7 janvier 2024, selon le Centre satellitaire des Nations Unies. Le 27 décembre 2023, l'armée israélienne a annoncé qu'elle avait lancé une opération baptisée Ozenir, en référence au kibboutz de Nir Oz, une communauté de l'enveloppe de Gaza qui a été attaquée par le Hamas et d'autres groupes armés le 7 octobre 2023. Le général de brigade Avi Rosenfeld, commandant de la division de Gaza de l'armée israélienne, a écrit dans un message aux troupes, je cite, « Le jour du Shabbat maudit, le 7 octobre, les horribles terroristes qui ont commis les crimes les plus horribles imaginables venaient de Kirbat Kiza, c'est-à-dire Kouza. Nous consacrons toutes nos forces à éliminer les terroristes qui s'y cachent, à la surface et sous terre, et à démanteler les infrastructures du terrorisme et du mal. » Le 28 décembre 2023, un militaire israélien du 8219e bataillon du génie a publié la première vidéo sur les réseaux sociaux d'une démolition à Kouza, justement. Il a écrit, je cite, « Le 7 octobre, de nombreux terroristes sont sortis de ces maisons pour massacrer les habitants de Nir Oz. Ce soir, nous en avons détruit 30. » Des images satellites confirment qu'au moins 30 habitations effectivement de la région ont été détruites entre le 26 et le 30 décembre 2023. Dans les jours qui ont suivi, le même militaire a publié 5 autres vidéos montrant des démolitions au moyen d'explosifs, la plupart filmées depuis le même toit. On voit des militaires sourire et poser, en train de fumer des cigarettes ou des narguilés, tandis que des explosions détruisent plusieurs bâtiments en arrière-plan. Dans l'une des vidéos, 3 militaires se dirigent vers la caméra alors qu'une explosion intervient derrière eux. Le texte en arabe indique, je cite, « Nous sommes revenus d'entre les morts pour vous hanter ». Les actions des militaires israéliens dans les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent qu'il n'existait pas de menace imminente à ce moment et à cet endroit, ce qui ne correspond donc pas au droit international humanitaire. Le 29 décembre 2023, l'armée israélienne a annoncé que les militaires s'efforçaient de prendre le contrôle opérationnel de Kouza et a affirmé qu'ils avaient trouvé des dizaines de tunnels, d'armes et de lance-roquettes. Les brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, avaient précédemment annoncé sur leur chaîne Telegram qu'elles avaient lancé des roquettes et des mortiers sur les troupes israéliennes depuis la région de Kouza. Et donc le 3 janvier 2024, l'armée israélienne a emmené une équipe de la chaîne israélienne Now 14 TV à Kouza. Des militaires ont montré comment elles utilisaient des mines anti-chars M15 pour détruire des bâtiments. L'équipe a interrogé des militaires à côté de bâtiments sur le point d'être démolis, ce qui indique qu'il n'y avait pas vraiment de menace directe. Pas de menace imminente en tout cas. Les images montrent des câbles en cours d'installation autour d'une structure sur les murs de laquelle figurent les chiffres 8, 2, 1, 9, la désignation du bataillon du génie. Le 10 janvier, l'armée israélienne a annoncé qu'elle avait achevé son opération à Kouza et qu'elle avait détruit des centaines d'infrastructures terroristes, des positions de lancement de roquettes et des postes d'observation, ajoutant que les militaires avaient éliminé des dizaines de terroristes et découvert et détruit environ 40 conduits de tunnels. Cependant, des images satellites et des vidéos ont révélé que les troupes avaient également détruit des centaines de bâtiments résidentiels, un cimetière et une école primaire. La plupart des bâtiments démolis se trouvaient à une distance de 1 à 1,2 km de la barrière de démarcation. La destruction systématique de biens de caractère civil en représailles à des actions de groupes armés peut constituer une sanction collective, ce qu'on appelle une sanction collective en droit international. Et donc ça doit faire partie d'une enquête, et d'une enquête donc pour crimes de guerre. On a le témoignage par exemple de Salem Koudei, qui est un enseignant qui vivait à Kouza avec sa famille, qui a déclaré à Amnesty International, je cite, « Mon logement se trouvait à environ 1650 mètres de la frontière avec Israël. Nous sommes partis de chez nous le 11 octobre parce que la zone était devenue trop dangereuse. Autour de la maison de ma famille, nous avions un verger de 3 dounams, c'est-à-dire environ 0,3 hectares, plein d'arbres fruitiers. Tout a été détruit, il ne reste plus qu'un pommier et une rose. J'avais des abeilles et je produisais du miel, tout a disparu maintenant. Sur les 222 maisons de mes proches dans la région, il n'en reste qu'une douzaine. Ma maison où je vivais avec ma femme, mes 5 filles et mon fils a été complètement détruite. » Les destructions n'ont pas eu lieu qu'à Kouza. Il y a aussi le cas de Shajaya. D'autres personnes le long de la ligne de démarcation entre Gaza et Israël ont également subi les conséquences destructrices des démolitions israéliennes. Donc à Shajaya, l'un des plus grands quartiers de la ville de Gaza, plus de 750 structures se trouvent dans la zone tampon imposée par Israël et au-delà de celle-ci. Et elles ont été détruites ou gravement endommagées entre le 26 novembre 2023 et le 6 janvier 2024, selon le Centre satellitaire des Nations Unies. Parmi ces structures figuraient deux écoles, des mosquées et des dizaines de bâtiments résidentiels. L'armée israélienne a affirmé, sans fournir de preuves, que certains de ces bâtiments abritaient des armes, des munitions et des conduits de tunnels. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 20 décembre 2023 montre des militaires israéliens du 749e bataillon du génie célébrant la démolition d'environ 30 maisons à Shajaya. Rien n'indiquait un danger imminent pour les militaires lorsque l'explosion, qui s'est produite à environ 200 mètres d'eux, a été filmée. On entend un militaire dire « Na'al Oz, si Dieu le veut, tu auras une vue sur la mer ». Ça, c'est une référence au kibbutz de Na'al Oz qui a été attaqué par les groupes armés palestiniens le 7 octobre et qui se trouve à moins d'un kilomètre de la barrière du côté israélien cette fois. Dans une autre vidéo publiée sur les réseaux sociaux le même jour, on a un autre militaire qui se tient sur un bâtiment servant de base à l'armée israélienne et qui filme des dizaines de structures détruites. Le militaire déclare, je cite, « Lever de soleil sur les décombres de ce qui était autrefois Shajaya. D'ici, on voit les antennes de Na'al Oz, la base militaire et la ville. » Le 21 décembre, l'armée israélienne a annoncé qu'elle avait pris le contrôle opérationnel de tout le quartier, qui s'étend bien plus loin dans la ville de Gaza, au-delà de la zone tampon analysée par notre enquête. L'armée israélienne a également déclaré avoir détruit plus de 100 structures terroristes et découvert et détruit des dizaines de tunnels. Bien que de telles structures constitueraient en effet des objectifs militaires, leur présence dans le quartier ne justifie pas la destruction systématique de toutes les structures civiles dans cet espace. Dans le centre de Gaza, la zone autour et à l'est des camps de réfugiés d'Al-Bureij et d'Al-Maghazi ont été rasés aussi entre la fin du mois de décembre 2023 et janvier 2024. En fait, le calendrier des destructions correspond à l'offensive de l'armée israélienne dans ces deux zones, qui sont densément peuplées, et où elle a affirmé avoir trouvé des armes, des lance-roquettes, des conduits, des tunnels, etc. L'armée n'a cependant pas fourni de preuves ou d'explications quant à la nécessité militaire impérieuse de détruire les villages et les terres agricoles le long de la ligne de démarcation, alors que les armes et les objectifs militaires auraient été trouvés beaucoup plus loin à l'intérieur de la bande de Gaza. Plus de 1200 structures ont donc été gravement endommagées ou détruites dans la zone entre le 26 novembre 2023 et le 29 février 2024. Ces destructions ont touché des zones couvrant jusqu'à 1,8 km dans la bande de Gaza, depuis la barrière de démarcation, et plus de 3 km du nord au sud, couvrant environ 4 km². Les images prises par des drones et publiées sur les réseaux sociaux le 14 mars montrent plusieurs bâtiments en feu à l'est d'Al-Maghazi, environ 900 mètres de la barrière de démarcation. Des véhicules militaires israéliens sont visibles sur les images satellites du 10 janvier 2024, ce qui indique qu'ils contrôlaient la zone, déjà, de base, et les bâtiments semblent avoir été démolis entre le 10 et le 12 janvier. Les champs aux alentours avaient été rasés au bulldozer le 15 janvier 2024. Plus au sud, des bâtiments et des terres agricoles ont également été détruits par l'armée israélienne à Al-Sureij et Abassan al-Kabira, deux villages ruraux situés à environ 1 km de la barrière. Des images satellites montrent que l'armée israélienne avait avancé vers Al-Sureij à la fin du mois de décembre. À la fin du mois de janvier 2024, environ la moitié des bâtiments du village avaient déjà été démolis et les champs environnants rasés. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux les 19 et 20 janvier montrent l'explosion d'un ensemble de maisons. Ni l'armée israélienne ni les groupes armés palestiniens n'ont publié plus d'informations sur leurs activités à Al-Sureij et aux alentours. À la fin du mois de février 2024, l'armée israélienne s'est déployée plus loin encore dans la région de l'est de Khan Younes, où se trouve Abassan al-Kabira. Entre le 13 février et le 13 mars, l'armée israélienne a affirmé avoir tué des combattants palestiniens et trouvé des armes et des lance-roquettes dans la région d'Abassan, dans laquelle se trouvent des villes d'Abassan al-Kabira et d'Abassan al-Sagira. La période coïncide donc avec la démolition de la mosquée Omar Bid Abu Dul Aziz Et cette vidéo, publiée le 19 février, montre des soldats marchant dans la région de manière assez détendue, donc sans aucune indication de danger imminent, encore une fois. Selon le droit international qui s'applique aux situations de conflits armés, y compris pendant l'occupation militaire, ce droit, il est composé de règles dont le but est avant tout d'atténuer autant que possible les souffrances humaines en temps de guerre. Les quatre conventions de Genève de 1949 et leurs deux protocoles additionnels de 1977 sont les principaux instruments du droit international humanitaire. Nombre des dispositions de ces traités sont considérées comme relevant du droit international coutumier, ce qui signifie qu'elles sont contraignantes, et ce pour toutes les parties à un conflit armé, qu'elles aient ou non ratifié des traités spécifiques et qu'il s'agisse de forces étatiques ou de groupes armés non étatiques. Nombre de dispositions de ces traités sont considérées comme relevant du droit international coutumier, ce qui signifie qu'elles sont contraignantes pour toutes les parties à un conflit armé, qu'elles aient ou non ratifié des traités spécifiques et qu'il s'agisse de forces étatiques ou de groupes armés non étatiques. Au titre de cette norme coutumière, la destruction ou la saisie des propriétés d'un adversaire est interdite, sauf si elle est exigée par d'impérieuses nécessités militaires, ce qui n'est pas le cas ici. En outre, l'article 53 de la 4e Convention de Genève, qui régit les actions d'Israël en tant que puissance occupante dans la bande de Gaza, dispose, je cite, « Il est interdit à la puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à un État ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires. » Selon l'article 147 de cette même convention, la destruction et l'appropriation de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutés sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire sont des infractions graves à ce texte et donc ça signifie que ce sont des crimes de guerre. Lorsque cette destruction est imposée à titre de sanction collective, elle bafoue également l'article 33 de la 4e Convention de Genève qui dispose, je cite, « Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu'elle n'a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure d'intimidation ou de terrorisme, sont interdites. » Les biens de caractère civil sont également protégés dans le cadre des conflits armés par le principe de distinction, au titre duquel toutes les parties au conflit sont tenues en toutes circonstances de faire la distinction entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires, et donc de ne pas diriger leurs attaques contre des objectifs militaires. Au titre du droit international humanitaire coutumier, les biens de caractère civil sont tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires. Les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offrent en l'occurrence un avantage militaire précis. Les biens de caractère civil sont tous protégés contre les attaques, sauf s'ils constituent des objectifs militaires et aussi longtemps qu'ils le demeurent lorsque tous les critères d'un objectif militaire se trouvent temporairement remplis. Le protocole 1 prévoit que, en cas de doute, les parties à un conflit doivent présumer que la structure conserve son caractère civil. Donc attaquer délibérément des civils ou des biens de caractère civil constitue effectivement un crime de guerre. Pour toutes ces raisons, Amnesty International demande instamment à la Cour internationale de justice d'ouvrir une enquête pour crime de guerre et pour punition collective. Et si le sujet vous intéresse en plus en profondeur, je vous envoie vers notre enquête sur notre site amnestyinternational.fr, une enquête qui est très détaillée et qui est imagée également. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site. Moi, je vous souhaite un bon week-end sur Radio FM+, et à bientôt.